Un bataille, on y va. Donc on va prendre Bezrat Hashem, notre quatrième cours, je crois, sur le chapitre 7 de Char Echoud Vehemouna. Mais avant de commencer, nous sommes à la page 102, avant de commencer, je voudrais d'abord faire une introduction sur la particularité de ce jour. Ce soir, nous sommes une date très particulière. C'est la raison pour laquelle il y aura de la pizza, Bezrat Hashem, offert par notre ami David Zaps. 24 Tevet ce soir, c'est la Hiloula de Rabbi Shneur Zalman. Rabbi Shneur Zalman, c'est l'auteur du Tania, l'auteur de ce livre. Donc c'est pas n'importe quelle date, c'est une date qui est particulièrement lumineuse. Alors en guise d'introduction, ça n'a pas spécialement un rapport avec le cours d'aujourd'hui, mais je voulais quand même expliquer, faire appel à une autre lettre de l'Admour Hazaken, la lettre numéro 27, dans laquelle on vient de parler de toi. Dans laquelle l'Admour Hazaken s'arrête sur l'importance d'une Hiloula, la présence d'un tzaddik après qu'il a quitté ce monde. C'est une lettre que l'Admour Hazaken avait adressée au Chassidim après le départ de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Lorsque le Magid de Mezeri, successeur du Baal Shem Tov, avait quitté ce monde, de facto celui qui l'avait succédé, c'était Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Maintenant, l'opposition au chassidisme était tellement forte à cette époque-là que Rabbi Menachem Mendel de Horodok n'a pas supporté. Et il a décidé de faire sa aliyah. Parce qu'il trouvait que, en Biélorussie, la pression, enfin, même, voilà, dans toutes les sécurités, la pression était trop forte. Donc il est parti, il a fait sa aliyah. Il a fait sa aliyah, ça a duré quelques temps, et quelques temps plus tard, il a quitté ce monde. C'était un double coup dur pour les chassidim.
En Israël?
En Israël. Déjà, parce que, voilà, leur rabbi, les avait quittés physiquement une première fois, une deuxième fois il les a quittés, il est parti. Bonsoir. Alors l'Admour Hazaken avait écrit une lettre au Chassidim pour les consoler doublement sur le départ de Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Et dans cette lettre qui est un chef d'œuvre, est une lettre de base, l'Admour Hazaken explique comment, quand on analyse un tzaddik, on ne doit pas l'analyser uniquement sur le plan matériel. Parce que c'est vrai, sur le plan matériel, nous, quand on essaye de se remémorer des personnes qui nous étaient chères, mais qui sont plus de ce monde, et on essaye de dire, bon, finalement, comment je le connaissais? Qui était-il? Qu'est-ce qu'il m'a légué? C'est des vraies questions. On peut inventer, mais quand on se pose des vraies questions, des fois, on arrive à... Bon, c'est, bien sûr, c'est une personne avec laquelle on a communiqué, surtout par son corps. C'est la vérité, c'est la réalité. Hein? Comme, ouais, en français, déjà, ouais. Ça, mais vous, ça, vous ne m'attendez pas.
C'est Moutsi. Hein?
Ah, ouais, c'est Maisonot.
La pâte est Maisonot, maintenant, ça dépend.
C'est
F, le cours de Shabbat. Alors.
Mais des fois, hein? Des fois, la pâte, elle est.
Ça, on va prendre un.
Ça,
bon. Couvert, là, tu sais, là, juste. Comme ça, on fait un transfert. Juste derrière.
Donc, voilà, il y a les assiettes.
Non, mais David.
Ça me donne de l'ordre, c'est pour ce gueule.
Marcel.
Non, moi. Il va donner une assiette.
Voilà. Pour ceux qui veulent des assiettes.
Mettez quelques-unes là-bas. Non, mais il a donné une assiette.
Non, vous donnez les assiettes pour ceux qui veulent aussi.
Voilà, tu veux dire 3 ou 4. Et ça, ça fait un assortiment. Vous mettez là-bas.
Voilà. On fait une petite pause alors. Donc, on continue. On a expliqué. L'Admour Hazaken a écrit une lettre qu'il a adressée au Chassidim après le départ de Rabbi Menachem Mendel de Horodok, dans laquelle, dans cette lettre, il console les chassidim. Il leur explique que la vie principale d'un tzaddik n'est pas une vie matérielle, qui effectivement se termine à un moment. Parce qu'une vie matérielle, même si elle dure longtemps, à un moment, elle est limitée. La vie principale d'un tzaddik, bonsoir, est une vie spirituelle. Et la vie spirituelle, non seulement qu'elle ne s'arrête pas, Rabotaï, on va se concentrer. On va manger avec plaisir, mais on va se concentrer.
Concentrez-vous.
Non seulement que cette vie ne s'arrête pas, mais bien au contraire, après que le tzaddik n'est plus bridé par son corps, sa neshama peut aller beaucoup plus loin et elle peut agir beaucoup plus pour ceux qui sont attachés à lui. Et on le voit clairement avec le rabbi, avec tous les tzaddikim, que c'est juste une question, est-ce que nous on est attachés au tzaddik? Tant que toi tu es attaché au tzaddik, le tzaddik, il peut t'amener beaucoup plus loin que ce qu'il pouvait t'amener de son vivant. Parce que de son vivant, il était bridé par un corps, qui avait faim, qui avait soif, qui devait dormir, qui était fatigué, il est bridé par un corps. La neshama, qui était son outil essentiel, était bridée par son corps. Mais après le départ officiellement de ce monde, en vérité, le tzaddik n'est plus bridé par son corps. Donc s'il est plus bridé par son corps, il est illimité, il peut aller partout. Et ça, c'est.
On se voit après là-dessus parce que j'ai écouté un cours cette semaine.
Avec plaisir, installe-toi, Bechavod. Installe-toi, avec plaisir, pas de problème, installe-toi, Bechavod. Et donc. Je te sens bien réveillé, bon, Rachel, c'est bien. J'oublie pas tes origines corse. Non, donc sérieusement, donc surtout que l'Admor HaZaken est une très grande neshama. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, chez les Chassidim, on a l'habitude de dire, et le Rabbi l'a dit plusieurs fois, que l'Admor HaZaken était une neshama chadasha, une nouvelle neshama qui est descendue sur terre, qui n'était jamais descendue. Puisque vous savez que la majorité des âmes que nous avons aujourd'hui, même l'écrasante majorité, sont des neshamot, on va dire recyclées, c'est des gilgoulim. C'est vrai. Il y a quasiment plus de neshamot nouvelles. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de neshamot nouvelles. Quand Hachem envoie une neshama nouvelle, c'est qu'il y a une mission nouvelle, complètement nouvelle. L'Admor HaZaken avait une nouvelle neshama. Et lorsqu'on te dit que l'Admor HaZaken a une neshama particulière, ça veut dire que lorsqu'arrive sa Hiloula, sa Neshama, elle monte, et il suffit que nous, on s'attache à lui, et nous aussi, on monte. Parce que lui, sa Neshama, elle monte. Mais c'est pas que lui qui monte. C'est nous qui montons avec lui. Et là, on arrive à un point très important. Vous savez, quand on veut faire un... Quand, par exemple, on veut... Il y a une date pour de quelqu'un, on dit les Hiloui Nishmat. Ça veut dire quoi, les Hiloui Nishmat? Pour l'élévation de l'âme. C'est-à-dire que moi, je vais manger un croissant, je vais manger une pizza, et je vais dire que ma pizza sera pour l'élévation de l'âme de quelqu'un. C'est quoi la logique? Quel rapport? Il va manger une pistache, et il va dire cette pistache, c'est pour l'élévation de l'âme. La logique est très simple. C'est que la personne qui est en haut, ne peut plus faire de mitzvot. Donc, comme il ne peut plus faire de mitzvot, moi, je fais une mitzvah pour le mérite de cette personne, et automatiquement, cette mitzvah est pour le bénéfice de cette personne qui ne peut plus faire de mitzvot, et donc sa neshama se trouve élevée. Ça, c'est pour les gens classiques. Mais quand on parle d'un tzadik, on ne dit pas l'Eilu Nishmat.
Ah oui.
Bien sûr que non. C'est moi qui vais élever la neshama du tzadik. Il dit, je vais élever sa neshama. Qui va élever sa neshama? Attends déjà de capter sa neshama. Si tu captes sa neshama, c'est lui qui t'attrape. Bien sûr qu'on dit pas l'Eilu Nishmat. Enfin, on ne dit pas en tout cas au sens classique. Les Hiloui Nishmat, que tu crois que tu vas manger une pistache, tu vas élever sa neshama?
Je t'ai mis du rouge.
T'as fait une bracha, c'est important.
On dit merci, c'est la Hiloula, on sait.
Bien sûr, mais on dit pas les Hiloui Nishmat. Hiloula, ça veut dire c'est la fête. Et
Hiloula, c'est la fête.
Et justement, il y a un commentaire de l'Admor HaZaken sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Hiloula, c'est un mariage.
Hiloula,
c'est un mariage.
Mais ça veut pas dire aussi élévation?
Non. Ça, c'est Aliya avec un Aïn. Hiloula, c'est un mariage. Une fête. Ça veut dire que maintenant, à l'instant où je vous parle, ce soir au Gan Eden, il y a une fête qui a commencé. La fête de la Mishnah Zalman. Et tout celui qui participe à cette fête, en venant à un cours de Tanya, en mangeant une pizza, en prenant une bourra, en écoutant quelque chose, etc., il a participé à la fête de la Mishnah Zalman. La Mishnah Zalman, il le prend avec lui. Il lui dit, t'as participé à ma fête, t'es dans mon camp. T'es avec moi. Donc c'est pas moi qui est en train d'élever la Neshama de la Mishnah Zalman. Je lui rends pas service. Je suis pas venu faire kavod de la Mishnah Zalman. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis venu faire kavod. C'est pas moi qui fais kavod, Rabbi Shneur Zalman. Au contraire, c'est j'essaye de m'accrocher à un train qui fonctionne, qui tourne déjà, et j'essaye de m'élever. Et quand tu rentres dans le train de Rabbi Shneur Zalman, si son train monte, son avion monte d'un niveau, toi aussi tu montes avec lui. Et tu prends pas le train, tu prends pas l'avion, bah tu restes en bas. Ok, reste en bas. C'est ton problème. Donc c'est à dire que Rabbi Shneur Zalman il monte de niveau. Chaque tzaddik et tout le monde, mais surtout les tzaddikim. Dès qu'arrive la date de leur Hiloula, leur Neshama monte de niveau. Tout le temps. Mais d'ailleurs, même pour tous nos proches. Quand il y a un proche, etc. Pourquoi c'est important de célébrer la date anniversaire d'une personne? Parce que le jour de son anniversaire, il monte. Et vous savez, quand on veut monter, on a besoin d'un coup de boost. Alors, si c'est une personne qui n'était pas de sadique, qui est une personne classique, il a besoin d'un autre coup de boost qui sommes là pour rajouter une mitzvah pour l'envoyer un peu plus haut. Mais quand c'est un sadique, c'est le contraire.
Le tzaddik, il n'a pas besoin de toi pour monter. Il monte très bien sans toi. C'est le contraire. C'est quand toi, tu penses au tzaddik et tu t'accroches au tzaddik, alors quand lui, il monte, il t'emporte avec toi. Donc c'est une vision complètement différente. Et c'est pour ça qu'on a ce soir, on a une particularité, on est Chavdelat Tevet, le 24 Tevet, c'est la Hiloula de Rabbi Shneur Zalman. C'est une date à laquelle le Rabbi faisait presque chaque année Fabringen. Alors, ou le Shabbat avant, ou le Shabbat après, mais en général, c'est même la date même, le 24 Tevet. Parce que, voilà, c'est une date importante. C'est la Hiloula de Rabbi Shneur Zalman. C'est le jour où Rabbi Shneur Zalman, il monte, encore et encore. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de célébrer les Hiloulot chez nous, de façon festive. Parce que dans le monde sfarad, on célèbre plus les Hiloulot de façon festive, avec des grillades, etc. Bon. Dans le monde chassidique, c'est moins comme ça. Il n'y a pas ce côté, à part pour l'Agba Omer, à part pour Rabbi Shimon. Non, même votre, quand même, il n'y a pas le côté festif. Il y a le côté, bien sûr, simcha, mais il n'y a pas le côté festif. Alors, on ne peut pas faire des grillades, des musiques et des danses. C'est pas bon, c'est pas l'approche. D'accord? Mais il n'empêche que c'est un moment qui n'est pas du tout triste. Une Hiloula, c'est tout sauf triste. C'est peut-être pas, on n'est peut-être pas là à faire des grillades, mais c'est un moment qui est joyeux, qui n'est peut-être pas festif, mais qui est joyeux. Parce que le tzaddik, il monte et il t'emporte avec toi.
Il est où, Samuel?
Hadich.
C'est en Ukraine?
En Ukraine. Non, Hadich, pardon, c'est en Russie. Et là-bas, il y a. Là maintenant, tout à l'heure, on m'a envoyé des photos. Des gens qui sont réunis là-bas. Oui. Alors, avant, c'était très difficile d'accès. Jusqu'à il y a quelques années, c'était très difficile d'accès. Surtout que maintenant, c'est une période où c'est enneigé là-bas. Vous savez, quand c'est enneigé, tout est couvert. C'est une grande galère. Il y a eu quelques années, il y a eu un riche philanthrope qui est venu et qui a vu la difficulté qu'il y avait pour accéder. Il a dit, je paye ce qu'il faut pour que ce soit plus aussi difficile que ça. Donc il a pavé des routes. Vraiment, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est un grand mérite qu'il a. Il a pavé des routes, il a rajouté des lumières, il a fait un joli mausolée. Enfin, il a fait beaucoup de choses pour que les gens qui viennent maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Ça veut dire que tu peux avoir une voiture qui te dépose pas loin, et après t'as une route qui peut être déblayée facilement, qui peut avancer. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, il y a des photos, avant, je n'avais même pas 15 ans. Enfin, ouais, tu marchais sur des chemins de terre qui étaient couverts de neige, qui étaient couverts avant. Enfin, c'était sting. Non, c'était pas impossible, tout est possible. Mais c'était galère. Lui a vu ça, il a dit, c'est un grand mérite qu'il y a ce monsieur. Il aurait pu mettre son argent ailleurs. Il a dit, non, je mets mon argent pour la demeure à Zaken. Oui.
Tu parlais de celui qui avait fait ça à l'IA et qui était décédé là-bas.
Oui, Rabbi Menachem Mendel de Horodok.
Et lui est en Israël?
Lui est en Israël? Ouais, il est enterré en Israël. Et c'était un coup très dur pour les chassidim. Et c'est pour ça que Rabbi Shneur Zalman a envoyé cette lettre aux chassidim, pour les consoler, et pour leur expliquer qu'ils doivent savoir que même si c'est difficile quand un tzaddik quitte ce monde, mais on doit savoir qu'en vérité le tzaddik est toujours là, il faut continuer à s'attacher à lui. C'est-à-dire que tant que nous on pense à l'Admor HaZaken, l'Admor HaZaken est avec nous. On a des miracles extraordinaires avec l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, aujourd'hui encore on voit comment quand tu dis l'Admor HaZaken, ça t'ouvre l'esprit de façon extraordinaire. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, vous pouvez aller chercher dans le Igaret HaKodesh, d'accord, la lettre numéro 27 et l'explication, etc., etc., etc. Maintenant, ça, c'est juste une introduction pour expliquer l'importance du jour, mais on va quand même revenir à notre sujet. Et on va revenir à Shayachut Ve'emouna, page 102. On a eu un long développement, jusqu'à maintenant, pour expliquer comment, même si quand on analyse notre monde, et ça encore une fois on voit un grand chidouche de l'Admor HaZaken, même si quand on analyse notre monde, on ne voit pas clairement Akadosh Baruch Hu, on n'arrive pas à le voir avec nos yeux, parce qu'il y a eu un timtzoum, il y a eu une contraction, il n'empêche que ça doit être évident pour nous que Akadosh Baruch Hu est là de pleine puissance. Alors on avait expliqué, je ne vais pas revenir dessus, mais on a expliqué la semaine dernière, on avait ramené Maïmonide, qui avait dit justement que ce sujet-là est un sujet qui est très compliqué à comprendre, que le cerveau humain peut comprendre que de façon limitée. De comprendre comment c'est possible que pour Akadosh Baruch Hu, la sagesse et le message et le sujet connu, c'est la même chose. Bon, je ne veux pas revenir dessus parce que c'est un sujet qui était assez complexe, mais c'est parce que c'est complexe. C'est très complexe. Tu parles de Dieu. Et c'est normal. Les gens, ils pensent, ils comprennent tout. Moi, je vous dis quelque chose. Quand tu viens à un cours, quand tu viens à un cours et que tu as tout compris, c'est que tu n'as rien compris. Ou que tu connaissais tout. Moi, quand je viens à un cours et que j'ai rien appris, j'ai perdu mon temps. Parce que de deux choses l'une, ou j'ai rien compris au cours, dans ce cas-là, j'ai perdu mon temps. Ou je connaissais tout ce qu'il a raconté, donc j'ai rien appris. Donc j'ai perdu mon temps aussi. Quand tu viens et que tu sens qu'il y a des choses dans lesquelles ça travaille, tu dis, ça c'est bien ça. Parce que ça veut dire que ça travaille. Ça, et ça dans le Tanya, dans tous les chapitres du Tanya, tu sens ça. Tu sens que Il y a un élément dans lequel il y a des éléments connus, bon, et il y a des éléments dans lesquels tu sens que là il touche à un sujet que peut-être tu comprends pas très bien, il faut en passer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, etc. Donc aujourd'hui, on va parler du Tzimtzoum. Et il va nous expliquer une erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils étudient la Kabbalah. Et il va pas mâcher ses mots, la Noura Zaken, il va dire clairement que voilà, bon, il y a des gens qui se trompent, et il va expliquer quelle est leur erreur. Parce que vous savez, le problème qu'on a avec la Kabbalah, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'étudient qui ne savent pas l'étudier. Et ils font des erreurs monumentales. Maintenant, vous allez dire, une erreur, ça change quoi? Quelle implication ça? Qu'est-ce que ça change si tu as fait une erreur, tu as expliqué que Hatzilut, il était là, ou Bréa, il était là? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Donc vous verrez ce qu'il va expliquer à la Moura Zaken, que ces erreurs peuvent être des erreurs fondamentales qui changent complètement notre façon de voir les choses dans le monde. Et ça, c'est très grave. Parce qu'on ne parle pas de n'importe qui ici, on parle de Dieu. Et si tu as une mauvaise approche sur la présence de Dieu dans le monde, que tu vas croire que Dieu est pas là ou qu'il s'est caché, etc. Enfin, tu vas raconter des salades qu'on va développer tout de suite. Ça veut dire que, dans ce cas, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Parce que ça a une implication sur ta façon de regarder Dieu. C'est essentiel. C'est pas juste un sujet que tu t'es planté. Bon, c'est théorique, t'as étudié, t'as mal compris, c'est de la science. Bon, j'ai mal compris, il va rien se passer. Quand t'as les scientifiques qui sont en train d'étudier maintenant, est-ce que telle planète elle est là ou elle est là? Si maintenant t'en as un qui va se planter, qui va, au lieu de croire que la planète elle est là, il va l'appeler comme ci ou va l'appeler comme ça. Ça va changer quoi dans la nature? C'est très important, mais ça va changer quoi? Ça va rien changer. Il n'y a pas toujours d'implication concrète. Là, quand on étudie la Kabbalah, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, on ouvre le Zohar, on comprend ce qu'on comprend, et c'est pas grave, au pire on s'est planté. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux me tromper de la halakha. C'est du Zohar, c'est de la Kabbalah, ça coûte rien. Il a de Morazakan, pas du tout. C'est très important. Alors regardez ce qu'on va dire ici. Veiné, page 102. Veiné. Mikan Yeshleavin, à la lumière de ce qu'on a expliqué au début du chapitre 7, et depuis, en vérité, depuis le début de Sharechet de Vemuna, on peut comprendre, Shigat Miktsat Rachamim Beneem, l'erreur commise par certains sages à leurs yeux. Bon, vous voyez déjà comment il commence la phrase. C'est-à-dire des gens qui se prennent pour des êtres intelligents. Hashem Yechaper Ba'adam, que Dieu les pardonne. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent avoir tout compris, mais qui n'ont rien compris. Ah, mais c'est le Moraz Zakai, il dit clairement que c'est une erreur ce qu'ils font. Alors, quelle est l'erreur de ces gens et qu'est-ce qu'ils ont compris? Des gens qui ont erré et qui se sont trompés dans leur étude des écrits du Harizal. Parce que vous savez que on a le Zohar, qui a été commenté en grande partie par le Harizal. Le Harizal n'a pas écrit de livre lui-même, mais ses commentaires ont été consignés à l'écrit par ses élèves, notamment son élève principal qui était Rabbi Chaim Vital. Et toute personne qui veut accéder à la Kabbalah est obligée de passer par les écrits de Rabbi Chaim Vital. Parce que même dans le Zohar, des fois, il y a des contradictions, des choses, etc. Donc on est obligé de passer par Rabbi Chaim Vital qui a codifié, par le Harizal qui a codifié tout ça. Le problème, c'est que quand on n'est pas averti, et quand on étudie soi-même des écrits comme le Harizal, comme le Zohar, etc., on peut des fois prendre des notions qui sont écrites et mal les comprendre. Je vais donner tout de suite un exemple. Là-bas, par exemple, le Harizal, il parle beaucoup de Tzimtzoum. C'est quoi Tzimtzoum? Contraction. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand toi, tu entends un mot comme ça, contraction, moi, quand j'entends en français le mot contraction, ça veut dire quoi contraction? Ça veut dire qu'il s'est contracté, c'est-à-dire qu'il s'est réduit.
Donc il reste quelque chose à voir.
Donc on applique un terme réducteur à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'on parle de Kadosh Baruch Hu. Et ça, on a une mise en garde.
Ça dérange pas lui.
On a une mise en garde du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous met en garde que toute personne qui étudie le Zohar et la Kabbalah en général doit faire très attention. Et dans le Tanya, on essaye de faire attention. Ça, c'est pour ça que l'Admor HaZaken a tout de suite développé ça. Mais il doit faire très attention. Lehafshit advarim igashmi yutam. Ça veut dire défaire les sujets de leur aspect matériel. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert le Zohar dans votre vie, ou si vous avez déjà écouté un cours de Zohar, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas si vous avez 40 ans ou pas, peu importe. Alors, en tout cas, je vais expliquer le problème qu'on a. Le problème qu'on a, c'est un vrai problème, c'est que dans le Zohar, il y a beaucoup de notions qui sont dites de façon matérielle. Par exemple, voilà, on te parle de Dieu, on te dit Dieu, il s'est contracté. On te dit un terme matériel. Donc toi, quand tu entends le terme matériel, Si tu comprends pas que c'est un concept qu'on veut te faire passer, et que il faut essayer de comprendre ce qui m'intéresse dans le concept, mais ne pas l'appliquer au sens littéral, oui, tu te plantes. Donc tu vas dire Dieu il s'est contracté. Après quand c'est écrit dans le Zohar, Dieu il est parti, tu vas dire bah Dieu il est parti. Mais c'est écrit aussi dans le Zohar des fois. Dieu il est parti, mais c'est un concept. C'est pas qu'il est parti, c'est qu'il donne l'impression qu'il est parti. Mais tu veux dire mais c'est écrit clairement noir sur blanc. Il faut comprendre que le Zohar c'est pas de la Gemara. Le Zohar c'est pas de la Halakha. Dans une halakha, on me dit Shabbat, c'est assur d'allumer la lumière. Shabbat, c'est assur d'allumer la lumière. Le texte qui est écrit, c'est ce qu'on voulait te dire. Et si on voulait te dire autre chose, on te l'aurait dit. C'est tout. Dis pas Shabbat, c'est interdit de réfléchir parce qu'on allume une lumière dans la tête. Non, non, ça marche pas comme ça. Tu m'as dit interdit d'allumer la lumière. Ce que tu m'as dit, c'est ce que tu voulais dire. Ça, c'est dans le monde de la halakha. Ah, c'est vrai. Dans le monde de la halakha, c'est comme ça. Dans le monde de la Gemara, c'est comme ça. Surtout dans l'aspect halakhique. Mais dans l'aspect agada, et encore plus dans le Zohar, faut se méfier, faut faire attention. Ce qu'on te dit n'est pas forcément à comprendre le sens littéral. Et c'est pas seulement ça. En général, en règle générale, il faut pas le comprendre au sens littéral. Bien que c'est écrit au sens littéral, on te parle par exemple de lumière. Et on va dire, ah, Dieu c'est une lumière. Dieu c'est une lumière. Quel rapport? Il faut bien comprendre que, c'est-à-dire que quand tu veux t'imaginer Dieu, tu penses au soleil, quel rapport avec la lumière? Dieu n'est pas une lumière. Il a demandé la lumière. Après, alors pourquoi le Zohar, chaque fois qu'il veut parler d'Hachem, il parle de lumière?
Énergie.
Encore une fois, la mise en garde du Baal Shem Tov qui dit attention. La lumière, c'est le concept le plus proche qu'on a trouvé pour comprendre intellectuellement ce que pourrait être l'énergie divine. Mais Dieu n'est pas une lumière. Qu'on soit clair, Dieu n'est pas une lumière. Et Dieu ne s'est pas contracté. Donc ceux qui ont mal compris les écrits du Harizal et qui les ont pris au premier degré, ils ont dit, ah, bah si c'est écrit dans les écrits du Harizal que Dieu s'est effacé, donc il s'est effacé. Il s'est contracté, il s'est contracté. D'ailleurs, c'est pour ça que y a dans beaucoup de communautés, on était contre l'étude de la Kabbalah. Jusqu'aujourd'hui. Parce que le problème qu'on a avec l'étude de la Kabbalah, c'est que si t'es pas averti et si t'as pas un maître qui est à côté de toi pour te briefer, tu pars complètement à côté de la plaque.
Dans le monde,
et ça a des implications dans la vie. Parce que si tu penses que Dieu il est parti, alors tu dis, bah, s'il est pas là, je fais ce que je veux. Enfin, c'est des vraies implications. C'est très grave, ça va très très loin. On a vu des gens qui ont pété les plombs, je m'excuse du terme, mais complètement, d'accord? Ils ont disjoncté à cause de la Kabbalah. Parce que la Kabbalah, elle te pousse très très loin, mais quand t'as pas les outils pour comprendre de quoi on parle, les concepts, tu pètes les plombs complètement, on disjoncte. Et c'est pour ça que même quand il y a le Tanya, il y a des gens au début qui sont opposés au Tanya. La force de Rabbi Shneur Zalman, donc ce soir on célèbre la Hiloula, c'est qu'il a pris ces concepts de Kabbalah qui sont très puissants, et qu'il les a, si vous voulez,
vulgarisés.
Bon, j'aime pas le mot vulgaire, mais oui, voilà. Oui, il les a adaptés à notre portée. De façon à ce que on ne s'arrête pas sur l'aspect matériel, mais qu'au contraire, on va comprendre le concept qui se cache derrière tout ça. Parce que c'est de la Kabbalah, finalement, tout ça. Vous allez dire, Chine le Roi Tabrit, Maral le Prime, ça reste la Kabbalah. Et il fut un temps dans lequel, pour étudier la Kabbalah, il fallait déjà avoir étudié toute la Gemara, toute la Halakha, etc., après seulement passer à la Kabbalah. Vous savez, une fois, lorsque le Rav Nissan Pinson, c'était il n'y a pas longtemps, ça, les Tunisiens connaissent bien le Rav Nissan Pinson. Le Rav Mazouz, il raconte qu'il connaissait très bien le Rav Nissan Pinson. Il a raconté ça à sa Iloula. Il raconte que lorsque Rav Nissan Pinson, il est venu présenter un Tanya à Rav Matzliach Mazouz, que Dieu venge son sang. Alors, il a dit, c'est quoi ce livre? Il dit, c'est de la Kabbalah? Il dit, non, c'est pas de la Kabbalah, c'est du Sechel, c'est l'intellect. Maintenant, bon, donc il a dit, il a autorisé qu'on étudie dans sa yeshiva le Tanya. On étudie dans la yeshiva, à Tunis, on étudie le Tanya. Maintenant, il y avait là-bas des élèves, que comme ils ont entendu cette question, ils se sont dit, peut-être ça veut dire que, ce qui était une erreur, parce qu'il a dit clairement qu'il n'était pas d'accord avec ça, mais il dit, peut-être ça veut dire que Rabbi Matzliach Mazouz, il pense que c'est de la Kabbalah. Alors, il y avait des élèves, dès qu'il arrivait le cours de Tanya, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait la tête, il dormait. Il dit, on veut pas écouter, c'est la Kabbalah, on veut pas écouter.
Ils ont peur.
Ils avaient peur.
Ah oui.
Ils ont entendu la question de leur maître. Ah oui. Ils ont dit, c'est la Kabbalah. Les gens ont dit, ah, bon. Il a dit, ok, c'est bon, mais ils ont dit, s'il a posé la question, c'est que c'est dangereux.
C'est dangereux.
Donc il y avait des élèves qui dormaient, mais de temps en temps, ils levaient les yeux parce qu'ils écoutaient, c'est intéressant. Et ils racontent comme ça, le Rav Mazouz. Ils racontent, ils se rappellent ce moment dans lequel ils étudiaient le Tanya. Et c'est ça la grandeur. En Tunisie, c'est pas assassiné.
Ouais, en arabe.
C'était le Rosh Hashiva de la Yeshiva Lubavitch.
Bien sûr.
Il y a
oui, il y a
30, 40 ans, mais je crois que...
Tu me trouves à la date, ouais, mais c'est...
Mais plus que ça peut être...
Il a été assassiné, que Dieu mange son sang.
On est proche d'en plus de ça, Ilula aussi, il me semble, c'est pour ça.
Ben, ça, Ilula, c'était Shabbat.
C'était Shabbat.
C'était Shabbat, ça, Ilula. Ouais. Et là, le Rami Metzler, c'était ce Shabbat.
D'accord.
Raph Pinson, je crois que c'est la semaine dernière, je crois. Non, c'était Shabbat, c'était, je vous le dis, c'était Shabbat, le 21 Tevet. C'est 21 Tevet. Donc, Bekitsour, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit ici clairement, et là on voit comment l'Admor HaZaken nous met en garde. Et vous voyez comment il mâche pas ses mots. On n'a pas l'habitude d'avoir des termes comme ça dans le Tania. Appeler des gens comme ça sages à leurs yeux, ça veut dire qu'ils se prennent pour des gens intelligents, que Dieu leur pardonne. Bon, il reste gentil, hein, c'est-à-dire que Dieu leur pardonne, mais on voit que. Il condamne fermement cette approche, très fermement. Il y a des gens qui sont partis étudier la Kabbalah et qui sont plantés. Ils ont appliqué à Kadosh Baruch Hu des termes physiques qui sont complètement faux. Et donc, l'Admor HaZaken, maintenant que tu es arrivé au chapitre 7 de Shaar Eichut Ve'Emunah, je pense que ça t'a aidé à comprendre que quand tu étudies dans la Kabbalah des notions physiques, comme des notions de contraction, des notions de disparition, etc., tu comprends qu'on ne parle pas de choses physiques, on parle de concepts. Et ça, c'est un des plus grands chidushim de l'Admor HaZaken, qui a réussi à adapter cette idée, à la mettre à la portée de tous.
Et quand on dit Baruch Hashem,
oui.
on, c'est l'homme qui bénit Dieu.
Ah, pareil, c'est encore une fois. Non, c'est pas de la Kabbalah, ça. Je ne veux pas donner d'exemple, mais je donne un exemple. Par exemple, dans la Kabbalah, on vous parle des membres de Dieu. Des membres, il y a des membres. On vous parle la main, et la tête, et le cœur, et les pieds, les bras, et etc. Et le bras droit, et le bras gauche, etc. On te parle de membres.
On l'assimile à un homme.
Vraiment, vraiment. Et on te parle de la marche de Dieu, on te parle de Dieu qui recule. Il y a beaucoup d'images physiques.
Ouais, non,
mais vraiment physiques.
J'ai compris.
Et... Celui qui n'est pas averti, qui lit ça,
ouais.
Alors il peut s'en tenir à l'aspect physique.
Bah oui.
Donc il va avoir une image très grossière des Kadosh Baruch Hu.
L'homme puisse comprendre.
Et ça, effectivement, on te dit, non, c'est pas bon de faire ça. Donc c'est là que tu dis l'Admor HaZaken. Il te dit, attention, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des gens intelligents, ils disent, moi je sais lire l'hébreu, je sais lire l'araméen. Donc ils ont ouvert les livres, ils ont dit, ben voilà, c'est écrit. Et comme dans le Harizal, il parle de Tzimtzum, de contraction, et qui dit que la contraction, c'est quelque chose de, qui c'est une contraction, donc il dit, bah, contraction, c'est contraction. Donc on s'est contracté, c'est tout. C'est-à-dire que Dieu, il est parti. Il te dit non. Il te dit que eux, alors regardez jusqu'où ils sont allés. Ils ont basé ça sur les écrits du Harizal, c'est très grave. chez Chagouv et Taouv, il y a un homme qui dit Harizal. Ces gens qui ont erré, ils se sont trompés dans leur étude des écrits du Harizal. Et vinou, il n'y a d'atimtsum kipshuto. Et ils ont compris le concept de Tzimtzum, de la contraction, qui est un des chidushim du Harizal, parce que le Zohar n'en parle pas clairement. Le Harizal l'explique longuement. Ils ont compris cette contraction au sens littéral. Kipshuto au sens littéral. Chez Akadosh Baruch Hu, Silek Atzmo Ma'oto Chaz V'Shalom Olamazé. Ça veut dire quoi au sens littéral? À savoir, je suis à la page suivante, que Dieu aurait retiré son être et son essence à Dieu ne plaise de ce monde. Dieu s'est retiré. C'est vrai, c'est les termes qui sont employés. Tu me dis contracté, retiré, ben c'est retiré. Moi j'entends le mot retiré, c'est-à-dire il était là, il n'est plus là. Et donc ces gens-là, quand tu leur dis, mais alors d'après toi, il est où Dieu? Elle dit, ah, rak, shemash ger milmala, bashgara pratit, Dieu seulement veille d'en haut, c'est une providence individuelle, al kola yetzurim kulam, sur tous les êtres créés, asham ashamayim ma'al, ve al aretz mitachat, sur tous les êtres qui sont dans le ciel en haut et sur la terre en bas. Ça veut dire, rappelez-vous dans le chapitre 2 de Shaar Eichut Ve'Emunah, on avait expliqué qu'il y a les kofrim. Et le kofrim, c'est le renégat. Là, il est même pas dans la même catégorie. Les renégats, koufar, exactement. Les kofrim, eux, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu a abandonné la terre. Il n'est plus sur la terre. Il ne contrôle plus la terre. S'il veut, il peut revenir quand il veut. Mais dans l'état actuel, il ne contrôle plus la terre. Il contrôle juste les très grandes lignes. Et s'il veut, il revient. Il sait dire qu'il a créé un système qui tourne et le système tourne. Ça, évidemment, l'Admor HaZaken avait condamné ça avec la plus grande véhémence parce que c'est faux. Dire ça, c'est dire que tu refuses l'existence des Kadosh Baruch Hu. Là, c'est plus subtil. Là, on n'a pas affaire à des gens qui vont te dire Dieu a quitté le monde, Dieu ne gère plus rien, s'il veut pour revenir, mais pour l'instant, il y a un système qui tourne tout seul, le moteur il tourne. Non, là, ces gens ne disent pas ça. Là, on a des sages qui te disent Dieu il gère.
Donc il reste toujours attaché.
Mais il gère d'en haut. Certains patrons, exactement, de loin. Il gère de loin. T'as un patron qui est là, qui est présent, qui est dedans. Et là, Dieu, il s'est contracté, et il dit, ça veut dire que, il gère d'en haut, il gère de façon pratique, de façon individuelle.
Il pilote.
Mais il pilote chaque détail. Il gère tout. Mais il gère d'en haut.
Et cette notion, en quoi elle a...
Et d'où il prend... ah, ou, quoi?
En quoi elle a dérangé cette...
C'est qu'elle est fausse. Non, il va expliquer pourquoi elle est fausse.
Elle est fausse, on sait, mais en quoi... Sur le concept, ça peut...
Alors, il va expliquer tout de suite pourquoi c'est un problème, c'est un problème sérieux de dire ça. Mais c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'on a pris une idée qui a expliqué le Arizal et on l'a complètement déformée. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste encore une fois, surtout que les premières fois quand on étudie la Chassidout, même à mon avis tout le temps, mais surtout les premiers passages, c'est très important d'avoir un maître. Mm-hmm. Une fois, il y a quelqu'un qui a écrit au Rabbi. Rabbi, il disait souvent aux gens qu'il faut pas que plus de 3 jours passent sans qu'on étudie Chassidout. De la même façon que pour le Sefer Torah. Vous savez que le Sefer Torah, vous avez marqué, on lit lundi, jeudi et Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas que passe plus de 3 jours sans Sefer Torah. Un juif, il a besoin d'écouter la Torah au moins une fois tous les 3 jours. Donc si vous faites le calcul, lundi, jeudi, Shabbat, ça veut dire, de toute façon, c'est pas compliqué, il y a 7, d'accord? Donc t'es obligé. 7, t'es obligé d'avoir 3 fois. Ok. Maintenant, le Rabbi dit de la même façon que c'est valable pour la Torah chez Birtav, la Torah écrite, c'est valable aussi pour la Torah chez Balpé et pour la Chassidout. Puis il faut pas que passe plus de 3 jours sans qu'on étudie Chassidout. C'est pour ça que nous, ici au Beit Rabad, voilà, par exemple, on a un cours de Tania le lundi soir. On a évidemment Shabbat aussi. On a aussi jeudi. Jeudi matin, on fait un cours de Chassidout. Un cours de Chassidout ou vendredi matin. C'est-à-dire 3 fois par semaine.
Vendredi, c'est pas jeudi.
Non, jeudi soir. Jeudi matin, on fait un cours sur la paracha, basé sur la Chassidout.
Ah, d'accord.
Bien sûr.
Non, parce que tu fais ta...
Ça veut dire que t'as pas... Toujours, t'as 3 jours. Chaque 3 jours, il faut un cours de Chassidout.
Mais là, on est lésé, là, monsieur Robin.
Pourquoi?
Tu as dit lundi, tu as dit vendredi.
Non, jeudi. Jeudi matin, jeudi. Le cours, c'est un Chassidout. En plus, on a rajouté vendredi. Et en plus, on a rajouté Shabbat. Maintenant. Maintenant, une fois, il y a quelqu'un qui a écrit une lettre au Rabbi. Vous allez comprendre, je vais en arriver. Une fois, quelqu'un qui a écrit une lettre au Rabbi et qui a dit, Rabbi, le Rabbi lui a demandé d'étudier la Chassidout. Maintenant, c'est une personne apparemment qui était assez versée dans l'étude, qui savait étudier la Gemara. Il a commencé à étudier la Chassidout et il n'a pas compris. Il a trouvé que c'était inintéressant ou en tout cas, il a trouvé que c'était pas pour lui. Donc, il a écrit au Rabbi, poliment. Il a dit, vous m'avez demandé d'étudier. J'ai ouvert le livre. J'ai ouvert le Tania, j'ai ouvert la Chassidout, j'ai commencé à étudier, mais je trouve que c'est pas intéressant ou c'est pas pertinent, enfin, etc. Il a eu des termes polis, mais des termes assez virulents. Alors, le rabbi lui a répondu la chose suivante. Une réponse, je pense, très importante. Il a dit, quand vous prenez, par exemple, un livre de médecine, allez, il ne le dit pas, mais imaginons, par exemple, vous ouvrez le Vidal. Vous connaissez le Vidal? C'est ce que c'est le Vidal? Bon. Tout est écrit dans le Vidal.
Les médicaments
sont écrits. Donc moi je vais dire maintenant, j'ai pas besoin d'un docteur. Je prends le Vidal.
Ah non.
Attendez.
Non,
c'est du français. Deux secondes, c'est du français. Et s'il y a des mots en latin, je vais chercher. Mais en général, c'est du français. Je vais me débrouiller. Seulement, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends très bien que c'est une aberration. Parce que même si tu comprends le français, mais tu comprends pas forcément ce qui est écrit. Et encore, le Vidal, c'est relativement simple. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu comprends ce qui est écrit dans, tu comprends les phrases, tu arrives à lire les phrases techniques, que c'est pour ça que tu les comprends. Il te faut un maître par derrière qui t'explique ce que tu dois comprendre. Et après, toi, tu arriveras à comprendre ce que ça veut dire. Et tant que tu n'as pas eu ce maître qui est à côté, que tu n'as pas passé une fois, deux fois, trois fois, ce que tu crois avoir compris, tu ne l'as pas compris. T'as rien compris du tout. Donc le rabbi, gentiment, il lui fait comprendre le message par l'analogie avec la médecine. Il lui dit de la même façon, vous prenez un texte, vous prenez un sujet, vous prenez un support, vous prenez des concepts que vous n'avez jamais touchés de votre vie. Vous passez un premier coup et vous dites, ah, ben c'est bon, j'ai fait mon idée, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Mais t'as rien compris, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu passes une fois, deux fois, trois fois avec de l'aide. Tu écoutes, tu prends les commentaires, tu essayes de comprendre. Une fois, et la première approche que tu as n'est pas la bonne, parce que tu ne connais pas encore. Tu découvres. C'est un sujet qui est nouveau pour toi. Ce que tu crois avoir compris, t'as rien compris. Une fois, deux fois, trois fois. Et c'est là que tu commences à comprendre le concept qui se cache derrière. Sinon, on tomberait dans le même panneau que ceux qui ouvrent les écrits du Arizal et qui s'arrêtent à leur première lecture. Ils disent, ah, il a parlé de contracter, Dieu s'est contracté. Ah, il a parlé de partir, Dieu il est parti. Etc. Ah, il a parlé de monter, Dieu il est monté. Dieu il est descendu. On n'emploie que des termes physiques. Monter, descendre, la main de Dieu, le bras de Dieu. C'est des termes physiques. Mais tu dis là de Morazaken, il faut bien comprendre que tu n'as pas le droit d'appliquer à Dieu les termes physiques. Et la seule raison pour laquelle on le fait, c'est parce qu'on essaye de trouver dans notre vécu des concepts qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. C'est tout. Mais c'est pas pour te dire, Chazé Shalom, que c'est ce qui se passe chez Akadosh Baruch Hu. Ok. Maintenant, Yves il a posé une bonne question. Il a dit, finalement, en quoi ce serait tellement grave de dire que Dieu n'est pas sur site, d'accord, et que Dieu il gère les choses à distance. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, les gens ils travaillent à distance. Hein, c'est bien. C'est vrai, Janice, après, elle travaille à distance. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne travaillerais pas à distance?
Parce que ça en est vrai. Ça expliquerait beaucoup de choses.
Oui, en plus, c'est vrai.
Ça expliquerait beaucoup le mal, ça expliquerait beaucoup la Shoah, ça expliquerait beaucoup de choses.
Non. Sinon, non, attends, non.
C'est pas ce que je dis.
C'est pas, non, ça, deux secondes. C'est une très bonne question que tu poses aussi. Je veux pas comparer ce que tu as dit à l'approche des renégats. Mais l'approche des renégats, qu'il ne faut pas suivre, c'était l'approche qui expliquait dans chapitre 2, qui disait justement, Dieu a abandonné la terre. S'il veut, il peut revenir quand il veut, mais pour l'instant, ça tourne. Et donc, il y a des choses qui se passent. Ils sont retirés. S'il veut, il peut revenir. Mais il n'est pas obligé d'intervenir sur chaque chose. Salad Morazakan a prouvé que c'est faux. Il avait donné avec l'exemple de la balle qu'on jette en l'air qui ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est clair qu'on a déjà dépassé ce cap. On sait que Dieu gère le monde, à chaque instant, à chaque seconde. Mais même s'il gère le monde, est-ce que ça veut dire qu'il est sur site? Il peut gérer le monde à distance. C'est vrai, il peut gérer le monde à distance, il envoie les ordres, mais non, lui, il n'est pas dedans. Il s'est retiré, il gère, mais il n'est pas dedans. Il gère à distance.
Il
qu'est-ce qu'il y a
hein? Il ne peut pas se retirer.
Ah, je comprends.
Parce que quand on est un seul tout.
Oui, mais, bien sûr.
Parce que c'est maintenant
on a avancé. Toi, tu connais. Toi, tu as avancé. Bon, prochain. Mais là, il va te dire que justement, ceux qui ont étudié les écrits du Harizal sans avoir de l'aide, sans avoir de l'aide de leur maître, comme le Baal Shem Tov, comme le Maharal de Prague, comme le Rabbi Shervis, le Shnou Khatabrit, sans avoir l'aide de maîtres qui ont expliqué ce que veut dire le Harizal, ils sont passés à côté de la plaque, complètement. Pour nous, Baruch Hashem, on a compris, parce qu'on a eu l'aide de l'Admor HaZaken. C'est-à-dire, si maintenant on ouvrirait les écrits du Harizal, on les verrait différemment.
Bah oui.
Ok? Alors on y va. Mais j'ai toujours pas répondu à la question de Yves. Finalement, et alors, si on pensait comme ça? J'ai compris que c'est faux, mais en quoi ça serait tellement grave de penser que Dieu gère à distance? So what? Et alors? Alors ça change quoi? Ça va changer quoi dans ma Emouna? Qu'est-ce qui va changer? Il va t'expliquer tout de suite. Veiné, page 103.
L'Admor HaZaken c'est plus cool. Le Harizal c'est plus dur.
Pas du tout. Non, parce que j'ai dit. J'ai dit que le Harizal, si vous voulez, il vous donne les infos brutes. Après, il vous faut l'Admor HaZaken qui t'explique ce que veut dire l'Admor HaZaken. Bien sûr. Ça veut dire que il y a des fois des termes, vous savez, c'est comme des fois quand par exemple vous avez des docteurs qui parlent entre eux. Ils ont des termes bruts, des termes techniques. Oui. Maintenant, celui qui écoute, il va entendre un mot et il va s'arrêter sur ce mot, il va adapter ce mot à son monde, il va comprendre des choses qu'il ne voulait jamais dire. Il va entendre des mots comme chute, comme etc. Il va dire ah il a dit chute, il est tombé. Mais c'est deux docteurs qui parlent entre eux et ils voulaient ensuite avec un E à la fin. Et maintenant c'est deux docteurs qui parlent entre eux, ils voulaient dire une certaine chose que toi tu n'as pas compris. Mais comme toi tu crois avoir compris ce qu'ils ont dit, t'as entendu un discours d'initié et tu as cru que t'étais initié alors que tu ne l'étais pas. Mais tu as cru comprendre quelque chose alors que tu n'as rien compris.
Alors c'est la même chose aussi pour le Tanakh, tout ce qu'on lit.
Le Tanakh ou le Tania vous voulez dire?
Le Tanakh, non, le Tanakh. Quand on dit par exemple, Vayar Israël et Tzadakdola, Asher Asad, Rabim Israël.
Alors oui.
Var Oam et Adonai, Var Aminu Adonai, Moshe Avdo. Donc ça c'est quelque chose de.
Ensuite,
oui, mais c'est quelque chose de. La différence, monsieur Benita, c'est que dans le Tanakh, il n'y a pas d'idée qui bouscule comme ça. C'est-à-dire, dans le Tanakh, vous ne verrez jamais qu'on vous dit Dieu s'est retiré. Une phrase comme ça, vous ne la trouvez pas dans le Tanakh. Il y a des phrases chocs dans la Kabbalah. Des phrases que vous n'aurez jamais trouvées dans le Tanakh ou dans la Gemara, nulle part. C'est des phrases choquantes dans le Zohar. Que si tu lis tout seul et que t'es pas initié, tu passes à côté de la plaque. Il y a des gens qui ont pété les plans à cause du Zohar. C'est-à-dire des gens qui ont arrêté de pratiquer. Parce qu'ils ont dit, moi je suis passé à l'autre gamme, à la gamme supérieure, et maintenant je suis avec Dieu. Enfin, complètement à côté de la plaque. Parce que si tu n'es pas initié, tu comprends pas de quoi on parle. C'est pour ça que chez nous, l'approche Rabbad, de façon générale, c'est de pas étudier le Zohar.
Mais dans un précédent.
Enfin, après, une fois qu'on étudie, une fois qu'on arrive à un certain âge, etc. Et encore. La vérité, c'est qu'en général, par définition, on n'étudie pas le Zohar.
Mais là, dans un précédent.
Parce qu'on considère que ce qu'on doit connaître du Zohar pour notre bien, pour notre neshama, ce qu'on doit connaître du Zohar pour notre avodat Hashem, pour notre service divin, est dans le Tanya. Et le Tanya a pris ses idées, il les a adaptées au service d'Hashem. Donc, j'ai pas besoin de plus que ça. Ce qu'il fallait, les maîtres de la Chassidoute sont partis les chercher et ils me l'ont donné. Moi, je ne vais pas chercher plus loin. C'est
la machine à comprendre.
Oui, oui. Il nous faut un outil pour comprendre le Zohar.
Bonne approche.
Hein?
Bon, mais avant le Tania, ils étudiaient le Zohar. Je ne parle pas de
Gaon. Oui, mais avant le Tania, qui étudiait le Zohar? Soit les gens ultra initiés, soit les fous. Le problème, c'est qu'il y a des grands secrets dans le Zohar. Des grands secrets. Les fous, oui, les malades, les gens malades. Il y a des illuminés qui veulent la lumière et ils cherchent le support. Et on trouve partout les supports. Le problème, c'est quoi? C'est que dans le Zohar, dans la Kabbalah, il y a une grande puissance qui est nécessaire pour la fin des temps. Sans cette puissance, on n'arrive pas à contrer Yetzer Hara aujourd'hui. Il nous faut cette puissance. Et c'est pour ça que les géants, comme le Maharal de Prague, etc., ils ont fait un effort de vulgarisation, tu as dit le mot, pour adapter ça. Ils ont été critiqués pour ça. Tout le monde, tous ceux qui ont voulu faire, ont dit quoi? Tu prends des mots du Zohar tellement puissants, tu les adaptes. Mais t'es obligé. Parce que pour contrer le Yetzer Hara à cette époque, il faut une arme. Et les armes classiques ne marchent plus. Il nous faut une arme puissante. Cette arme puissante se trouve dans le Zohar, se trouve dans la Kabbalah. Le problème, c'est que si tu prends l'arme telle qu'elle, c'est comme si tu prends une arme atomique, tu la prends et t'es pas initié. Tu prends l'arme atomique, tu fais tout péter. Donc il me faut cette énergie, mais il faut un outil qui la canalise. Ces outils, c'est les livres qu'on a, le Salutania. Et c'est ça le rôle de Shaykh Demouna, c'est de canaliser des grandes idées du Zohar, et surtout du Arizal, Rabbi Chaim Vital, mais de les adapter à notre portée. Ça veut dire de les conceptualiser, de pas les laisser sur le plan physique. Parce que quand tu lis le Zohar, quand tu l'arrives, il y a beaucoup de gens qui sont trop physiques. Il ne faut pas rester à ça.
Il se concentre ici, et dans le Zohar, il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut.
Non, justement, non, au contraire. Le Zohar, c'est le Zohar qui dit ça. Il dit le mot contracté. Tu entends un mot contracté, t'es pas initié. Contracté, ça veut dire quoi? Ça veut dire se réduire. Tu entends contracté et il est parti, silouk. Tu dis, ah, il est parti. C'est ce que tu me dis.
C'est ce qu'il dit ici.
Oui, mais je comprends. C'est ce qu'il dit ici. Mais lui, il t'explique ce que ça veut dire. Que contracter, ça veut dire un ressenti de contraction, qu'il est toujours là, mais que tu ne le ressens pas. Il t'explique que c'est un concept. C'est pas quelque chose de physique.
Mais ce qu'il veut dire, monsieur Bézita, ça peut pareil quand on dit que Dieu, il a étendu son bras.
Oui, mais c'est vrai que dans le chômage, on l'utilise des fois, on l'utilise souvent même, des termes physiques. Ouais. Mais dans le chômage, t'as pas d'idées choquantes. Non, t'as pas l'idée choquante.
C'est ça, mais il y a aussi.
Il y a pas d'idée.
Il y a plusieurs lectures là.
Dans le chômage, tu verras jamais une phrase comme Dieu s'est retiré. Ça n'existe pas. Il y a pas des phrases comme ça.
On dit qu'il a étendu son bras, par exemple, c'est pareil. On peut imaginer que bon.
Oui, mais là, c'est évident.
Il a un grand bras et que.
Le chômage reste relativement limité sur ça. Quand tu vas dans le Zohar, c'est beaucoup plus loin. On va te prendre chaque membre, on va t'expliquer comment ça fonctionne, etc. Ça va très 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 loin. Ça m'a dit, il faut comprendre que c'est des concepts, ça. Il faut jamais s'arrêter à l'aspect matériel des choses. Et ça, c'est une mise en garde du Baal Shem Tov. À toute personne qui veut étudier la Kabbalah, les hafshit advari megashmiutam. Il a fait des centaines de fois cette mise en garde. À tous ceux qui étudient la Kabbalah, leur dit attention, il faut défaire les sujets de leur aspect matériel. Tout le temps. Et tous ceux qui ont suivi le Baal Shem Tov, dont l'Admor HaZaken, font cet effort. C'est l'approche de la Chassidut. Très important, ça. On peut dire, c'est le testament du Baal Shem Tov, ça. De jamais comprendre les choses matériellement. De toujours les défaire, le matériel. Chercher le concept qui se cache derrière l'aspect physique. Oui?
Alors, moi, je pense à une chose. Quand on sait qu'il y a des gens qui ont pu mal tourner en rentrant dans le Kabbal, il n'y a pas la possibilité de construire quelque chose qui soit un préambule, disant voilà comment il faut y entrer de telle ou telle manière. Donc, déjà que le Arizal l'ait fait. Ça reste quand même très peu accessible. Est-ce qu'on peut pas aller
là? Voilà, ça c'est les outils.
Ça, oui, oui. Entre autres, non? Ou est-ce que
il y en a d'autres? Oui, il y a beaucoup d'outils du Moussa, beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui. Moussa, oui, il y a beaucoup d'outils.
Mais quand
beaucoup
tu vois de mouvements kabbalistes aujourd'hui qui essaient de le vulgariser,
oui, ils ont pété les. Bien sûr, la Kabbalah, ça parle à tout le monde. Si vous croyez, quand on vous dit aujourd'hui qu'il y a des stars, etc., oui, qui sont partis chercher la Kabbalah, c'est pas. Non, mais elle n'est pas la seule. D'accord. Non, mais c'est vrai, il y a plein. Il y a des centres de la Kabbalah. Il y a des milliers de personnes dans ces centres de la Kabbalah. Et ces gens-là, ils viennent pas pour rien là-bas.
Ils viennent pour le business.
Non, mais sérieusement, c'est pas des bars, ils viennent pas pour rencontrer du monde. Ils viennent parce que c'est des gens qui sont. Non, mais c'est sérieux ce que je dis. Les organisateurs de ces centres de Kabbalah, ils sont cupides. Eux, c'est des businessmen. Mais ceux qui viennent, ils viennent pas pour l'argent. Ceux qui viennent, ils viennent parce qu'ils sont en recherche de spiritualité. Ils sont dans un monde tellement vide qu'ils s'accrochent à la spiritualité. Mais le problème, c'est qu'ils pètent les plombs complètement. On leur vend n'importe quoi.
Forcément, des juifs.
Oui.
C'est pas des juifs à l'origine.
C'est vrai que même en Israël maintenant, c'est la mode en Israël, les centres de la Kabbalah comme ça, des gens qui font des milliards. Des milliards. Et autour de Tzfat, là-bas, c'est catastrophe.
Ah, ouais. Avec le Tania, on n'a pas fait des milliards.
Marchandiser, si vous voulez. Rendre la Kabbalah une valeur marchande, c'est très grave, à mon avis.
Bien sûr, c'est
mais s'il y a des gens qui viennent chercher, c'est qu'il y a une soif. C'est clair qu'il y a une soif. Autour.
Le Rabbin Berg. Je suis allé rendre, ton père, il faut les rendre, parce que c'est pas le garde à la maison.
Oui.
Et je suis allé rue Nicolo, dans le 16e, ils ont un local extraordinaire, mec.
Oui, c'est gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, bien sûr, pas question dessus.
À l'époque, chez Reski, Robert Huguet, ils avaient plein de livres comme ça à l'entrée de l'entrée du ah oui. Business. Quelques mois plus tard, tout a brûlé. Et tout le local a brûlé, tout le stock. Le magasin, tout a tout brûlé.
Quand on dit Dieu a parlé à Moshe, comment on peut séparer, comment on peut interpréter ça spirituellement?
Vous avez raison, c'est vrai. Oui, mais quand on lit le Chumash, on comprend que Dieu il a parlé, ça veut dire c'est une forme de prise de parole. Vous avez raison que sur ça aussi il faut expliquer. Mais dans le Zohar c'est plus fort. C'est des notions qui sont plus puissantes, plus matérielles. Ils sont vraiment, ça rentre dans les détails, de détails, de détails. Et il faut pas s'arrêter aux détails matériels. Il faut chercher à comprendre le concept qu'il y a derrière. Alors, on n'a toujours pas répondu à la question. En quoi serait-il grave de penser finalement que Dieu gère le monde à distance? C'est vrai que c'est une erreur, je comprends. Mais en quoi c'est une erreur qui est grave? Alors il explique. Veiné, page 103. Veiné. Milvach iepsharkla lomar inatimzu kipshuto. Mis à part le fait que c'est une erreur fondamentale, d'accord, une erreur grossière de penser comme ça, de penser que Dieu s'est contracté est égal Dieu acquitté. Shoum imikré à gouf, que c'est un phénomène corporel. Parce que le problème, c'est que tu entends un mot, et tu t'imagines toi qui quitterais, et tu dis, bah 6 mois pour quitter, je disparais. Donc, de la même façon, Dieu, quand il se contracte, il disparaît. Donc, ça veut dire que. Voilà, mon référentiel, c'est mon corps. Donc, déjà, il dit, tu comprends bien que c'est une aberration de juger à Kadosh Baruch Hu par rapport à ton référentiel.
Il suffit de dire que c'est une analogie.
Parce que tu n'as aucun. C'est qui ton référentiel? T'as aucun référentiel neutre. Le seul référentiel que tu as, c'est un référentiel corporel. Donc, on te dit une notion, et toi, pour essayer de comprendre par rapport à quelqu'un d'autre, tu dis, bah, écoute, moi, comme moi, de la même façon, quand je veux me déplacer dans un endroit, bah, avant, j'étais là, maintenant, je suis parti là, je suis plus là-bas. Donc, tu dis, de la même façon, Dieu, il est parti, il s'est contracté, il est plus là-bas. Mais tu comprends que c'est une erreur de faire ça, parce que tu compares deux choses qui n'ont rien à voir.
Comme s'il y avait... Donc, le temps et l'espace, c'est pas une notion.
C'est comme si tu comparais par exemple les mathématiques et la biologie. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu compares des choses qui n'ont rien à voir? Tu compares des domaines qui n'ont rien à voir. Tu peux pas comparer des choses qui ne sont pas dans le même domaine. On est d'accord? Donc, à la Kadosh Baruch Hu anivdal mehem ribor evavot avdalot enket, que tout le monde peut comprendre, que la Kadosh Baruch Hu est séparé par des myriades et myriades de séparations à l'infini du corps de l'être humain. Donc il est évident qu'on ne peut pas appliquer à Dieu des notions matérielles. Donc déjà, c'est une erreur. C'est une erreur.
Bah, c'est pour comprendre.
D'accord. Là déjà, il t'explique. Comprends que tu as un problème. Tu es en train d'appliquer d'appliquer. Attendez.
On nous demande de comprendre l'incompréhensible. Hein.
Non, j'ai compris. Non, mais tu dois. Même si. Attendez. Monsieur Benita. D'accord. Quand on vous dit, par exemple, je donne un exemple. Imaginez par exemple qu'il y a un tzaddik, d'accord, qui est en train de lire un texte. Et moi je suis devant le texte et je lis la même chose que lui. Je comprends que la façon comment lui comprend ce texte et comment moi je le comprends, ça n'a rien à voir. Oui, et avec ça je me compare à un être humain. Parce que je comprends qu'on ne peut pas se comparer. C'est-à-dire ce que lui lit et ce que moi je lis, c'est pas la même chose. Et même le mot qu'il a dit de sa bouche, je sais même pas si je l'ai compris. Tu comprends que c'est pas la même chose. Maintenant, tu parles pas d'un tzaddik, tu parles pas d'un être humain, tu parles de Dieu. Et tu entends un mot, tu dis contracté, tu dis ah, contracté, il est parti. Comprends que c'est une aberration de parler comme ça. C'est n'importe quoi. Parce que tu utilises un référentiel corporel avec un Kadosh Baruch Hu qui n'a rien à voir, qui a des années-lumière, des myriades, des myriades, des myriades de niveaux à l'infini, un peu plus haut. Donc, au moins, aie l'humilité de dire, j'ai pas compris. Ou peut-être que, mais venir dire, Dieu est parti, tac, tac, etc., commencer à le faire, tu sais, des gens, ils sont là, ils vous font des holama, tac, tac, il est parti, il a fait ci, il a fait ça, etc. J'ai dit, attends. Tu délires complètement. Attendez, monsieur Benita, s'il vous plaît. Alors. Il vous reste une minute. Deux secondes. Allons au bout du raisonnement. Donc, mis à part le fait que, comme on a expliqué, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça sur un cadre de jambon. Il est évident. D'accord. Maintenant. Veine. Milvat zot, milvat iefchar, kla lomar inatsumsum kishuto. Oui, pardon, ça je l'ai déjà dit. Argam zot. On a tourné la page, nous sommes à la page 104. Argam zot, l'obédat idaberu. Il dit, mis à part le fait que tu fais une erreur technique. Et tu compares l'incomparable. Donc déjà, c'est une erreur. Tes référentiels sont pas bons. Et vous savez, c'est comme tout, comme dans les maths, comme dans tous les domaines. Quand ton référentiel n'est pas bon, tu te plantes. T'es à côté de la plaque. C'est exactement. T'as pas sur quoi te baser. On parle pas de la même chose. Maintenant, il faut aller plus loin. Ça n'explique pas toujours pourquoi l'erreur est dramatique. Ah, comme Zot, l'obéda, tu d'abord. Il dit, mais c'est plus que ça. Il dit, tu dois savoir que ceux qui pensent qu'effectivement, le Tzimtzum est Kipchuto, c'est-à-dire que Dieu s'est littéralement retiré, mais Achar Shem Aminim des Maminim, étant donné qu'ils sont croyants, fils de croyants. Ça veut dire, ils sont pas comme ceux qu'on a expliqué dans chapitre 2, qui sont Kofrim, et qu'eux ils disent, non, Dieu a quitté la terre. Tu te déclares croyant. Donc si tu te déclares croyant, croyant, fils de croyant, tu sais que, Shakadosh Baruch Hu Yodea, Kol Eitzurim Sheba Olam Hazeh Shafel. Tu sais bien que Akadosh Baruch Hu connaît tous les êtres créés de ce monde et qu'il exerce sa providence sur eux. Tu crois bien, t'es d'accord avec ça? Bien sûr. Maintenant, Vel Kochar, En Yediato Otam, Mosifa Boribu Yridush. Et forcément, la connaissance que Dieu a des êtres créés n'ajoute aucune innovation chez Akadosh Baruch Hu. On va expliquer tout de suite. Mipne, Sheyodea Kol Bidiatetzmo. Il faut bien comprendre que même un juif, même une personne qui n'a pas compris, mais il comprend bien qu'il n'y a rien qui est une entité distincte à part Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas deux dieux sur terre. Il n'y a pas 10 dieux, il y a un seul dieu. Donc tu comprends que quand Akadosh Baruch Hu te connaît, il se connaît en vérité. Parce que si tu me dis que Dieu te connaît et que tu n'es pas lui, ça veut dire qu'il y a deux dieux dans le monde. Potentiellement en tout cas. Vous me suivez?
Non.
Bah oui.
Oui.
Bah, bien sûr, parce que si tu me dis qu'il y a Dieu et il y a autre chose, ça veut dire qu'il y a un autre élément qui peut être Dieu.
Ça veut dire quoi autre chose?
Bah, regarde. Dans une entreprise, t'as un PDG et t'as un employé. Si t'as un PDG et un employé, c'est que l'employé peut devenir PDG et que l'employé peut devenir PDG et le PDG peut devenir employé. Parce que c'est deux personnes différentes. C'est pas le bras du PDG et la tête du PDG et la main du PDG. C'est, il y a un être qui est là, un être qui est là. Techniquement, maintenant, il y en a un qui domine l'autre. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça peut changer. Parce que t'as deux éléments distincts. Si t'as deux éléments distincts, maintenant il y en a un qui a un prix sur l'autre, ça peut peut-être changer. Ou bien, ils peuvent être indépendants. Si tu dis qu'ils sont indépendants, indépendant pour indépendant, maintenant tu as ton emprise sur moi, peut-être que demain tu n'auras plus d'emprise sur moi. Parce que je suis indépendant. Donc ça, c'était l'erreur qu'ont fait les koufars dans chapitre 2.
C'est dangereux.
D'accord? Mais bien sûr, c'est dangereux. Mais toi, tu sais très bien que c'est faux, ça. Qu'on peut pas dire ça. Qu'il n'y a aucun élément qui est indépendant dans le cadre de Jouron. Donc si tu as compris qu'il n'y a aucun élément qui est indépendant, ça veut dire que tout est Dieu. C'est une évidence.
Et ou
parce
alors,
que sinon tu crées une indépendance. Il va expliquer.
Moi, je peux devenir Dieu, puisque.
Oui, ça va m'arriver à là. Ça veut dire
l'exemple du PDG par rapport au salarié qui lui peut devenir.
Oui.
Donc ça veut dire que.
Ou en tout cas, il peut quitter l'emprise du PDG. L'employé peut claquer la porte quand il veut. Il peut faire la grève quand il veut. Je travaille pas. C'est tout. Il fait ce qu'il veut. L'employé, il a les droits. Alors, est-ce que nous aussi, on a les droits par rapport à Kadosh Baruch Hu?
On a des devoirs.
Non, j'ai des devoirs. Mais si maintenant Dieu il décide quelque chose et moi je suis pas d'accord, est-ce que j'ai le droit de faire la grève? Il veut dire, Dieu t'a décidé, mais ça se passera pas comme ça.
Attends, alors, il nous a donné le libre arbitre.
Ah, c'est pas la même chose, attends, doucement. Libre arbitre, c'est pas la même chose. Libre arbitre, ça veut dire que je laisse à l'employé le choix de faire ce qu'il doit faire. Mais celui qui a le dernier mot, c'est le patron. Mais si tu dis que l'employé est autonome, il fait ce qu'il veut. Bah oui. Ça veut dire, un juif croyant, tout juif croyant, qui réfléchit un petit peu, arrive forcément à la conclusion que tout est à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui peut être en dehors d'un Kadosh Baruch Hu. Donc tu vois bien que ce que tu avances est infondé. Ça ne marche pas. On ne peut pas dire quelque chose comme ça. Mais je vais expliquer pourquoi ça va très loin. C'est une grande question qui se pose. D'accord? Là, bon, ils visent d'autres façons de voir les choses, mais qui ont été repoussées de toutes les façons avec le temps, que je ne veux pas citer. La question est comme ça. Est-ce qu'on peut dire par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce qu'on peut dire par exemple que Dieu se trouve dans une poubelle?
Oui.
Ou que, allez, je vais vous pousser un peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire que Dieu se trouve dans une église?
Oui. Non. Oui.
Ben oui, puisque si on dit qu'il est partout. Si on dit qu'il est partout.
Voilà, non mais voilà. Tu dis, mais attends, Dieu, il est dans une église!
Justement, je voulais vérifier l'autre fois, mais je n'ai pas pu rentrer dans l'église.
Alors, donc ça veut dire que l'église est un lieu divin.
J'ai dit, je voulais rentrer pour voir à quoi ça ressemblait.
Alors, où est le problème d'aller dans l'église?
c'est pour d'autres raisons.
Alors, de deux choses l'une.
Ah oui.
Donc là, j'ai deux erreurs possibles. Ou j'ai une erreur de dire, de toutes les. Je vous montre comment on peut péter les plombs. Deux pétages de plomb possibles. Premier péteur de plomb, il dit de toutes les façons, tout est Dieu. Donc je vais dans l'église, je vais récupérer les étincelles, le Kedusha qui sont là-bas, le gars il est complètement à côté de la plaque. Et quelque part, il a raison. Parce que si tu dis que Dieu est partout, eh ben Dieu il est là-bas, donc tu peux le chercher là-bas aussi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Où est le problème?
Et pourquoi pas, il serait pas là-bas.
Oui, pourquoi? Il est là-bas, c'est la vérité. D'accord. Là, c'est la première catégorie. Moi, je vous donne un autre qui va péter les plombs. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, moi je pense que Dieu n'est pas dans l'église. Mais ça, c'est encore pire de dire ça. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'il y a un endroit dans le monde dans lequel Dieu n'est pas là. Donc il y a un endroit qui est autonome.
Où il ne peut pas être.
Où il ne peut pas être. Et donc il y a une entité. Donc, une seconde, j'arrive. Et il y a une entité qui est autonome, qui n'a pas de compte à rendre, qui fait ce qu'il veut.
Tu réduis ses capacités.
Bien sûr. Donc quelque part, tu utilises le même argument que le koufar, mais un peu différemment. Au lieu de dire Dieu ne gère pas le monde, c'est donc tout ça, tu dis Dieu il gère le monde globalement. Mais là-bas, non.
Pas partout.
Dans la poubelle, il n'est pas là. Ah bon, dans la poubelle, il n'est pas là? Bah oui, tu dis, c'est contracté. C'est contracté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il rentre, des endroits où il ne rentre pas. C'est-à-dire, ça, c'est une erreur que tu fais quand tu utilises les choses, quand tu comprends les concepts matériellement. Donc, tu dis, ah, tac, il est rentré, synagogue, église, il rentre pas. Le gars, il est tout clair, il va dormir sur ses deux oreilles. Il a tout compris. Il a tout le judaïsme qui est cassé devant lui, il a tout compris. Il est capable de faire un plan. Mais t'as rien compris. Tu crois qu'on peut faire un plan d'HM? Tu crois qu'HM, c'est un, comment il appelle ça dans mon entreprise? Quand ils font des schémas, visio, comment?
Organigramme.
Organigramme, exactement. Il y a des gens qui font des organigrammes. Le gars, il a tout compris. Il tient, pac, tac, lui, il est là, tac, tac, etc. Il t'a fait une image. Le corps, la tête, les mains, et puis, cap, on y va. Il est là, il est pas là, là, il est là, tac, 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 etc. Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Il a cartographié HM. Cartographié, tu vois. La même façon qu'il y en a qui font ça avec les étoiles, il a cartographié. Il dit, j'ai tout compris. Il est là, il a tout compris. Il a demandé à Zaké, mais attends, tu parles pas des astres, là. Tu parles pas d'un être humain, tu parles d'HM. Donc, comprends que t'es à côté de la plaque, complètement. Mais, encore une fois, le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, quand tu lis le Harizal et quand tu lis le Zohar texto, bah, t'as l'impression qu'on t'a cartographié du ciel. Qu'on t'a cartographié des Kadosh Baruch Hu. Donc, on peut difficilement te reprendre. On peut pas te dire ce que tu dis est faux, parce que ce que tu dis est vrai. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Mais il faut comprendre ce qu'on est en train de te dire. Il faut comprendre le concept qu'il y a derrière. Quand tu veux pas comprendre le concept qu'il y a derrière, tu t'arrêtes à l'aspect technique, on fait des grosses gaffes. On a vu des gens qui ont pété les plombs. Complètement. Ça nous a amené à des choses comme Shabbat Taïdzivi, etc. C'est des gens qui ont complètement pété les plombs. C'est vrai, une fois que tu dis que tout est Dieu, alors après, vas-y, pourquoi ça serait interdit? Pourquoi j'ai pas mangé le cochon? Qu'est-ce qu'il y a? Tout est bon dans le cochon, il y a l'énergie divine qui est dedans. Où est le problème dans le cochon? Pourquoi tu me l'interdis? Tu comprends pas pourquoi je m'interdis?
C'est pas encore attaqué au sujet.
C'est un vrai problème. Alors non, alors voilà. Il y avait l'approche avant la Kabbalah. L'approche avant la Kabbalah, c'est les gens qui disaient, écoute, nous on touche pas à la Kabbalah.
Voilà, oui.
On touche pas. Tu m'amènes là à la Ha, la Gemara et la Kabbalah, on laisse ça pour les pros. Bon. C'est peut-être mieux comme ça. Vous avez raison. Le problème, c'est qu'on a besoin aujourd'hui des outils plus profonds. C'est comme ça. On voit sur le terrain que ce qui ramène les gens à la Torah, il leur faut un starter. Il leur faut une batterie, il leur faut un starter. Et ce starter, c'est quoi? Ce starter, c'est la profondeur de la Torah.
On voit
clairement sur le terrain. Aujourd'hui, regarde dans tous les médias, dans tous les courants. Je parle pas que Chabad. Tu ramènes pas quelqu'un à la Torah avec un cours de halakha. Ça marche pas. Tu peux pas? Ça marche pas.
Non, au contraire.
Tu peux pas? Ça ne marche pas. Maintenant, je vais vous dire plus que ça. Même si tu l'invites à un cours de Gemara, ça peut peut-être marcher. Mais le cours de Gemara, tu vas l'intéresser à la beauté intellectuelle de la Torah. Mais c'est pas forcément qu'il fera Tchouba. On voit clairement dans le terrain. Alors après, il y en a qui prend Tania, il y en a qui prend Rav Dessler, il y en a qui prend d'autres commentaires, peu importe. Mais tu vois clairement que dans la majorité des cas en tout cas, le starter est toujours la profondeur de la Torah. C'était pas comme ça avant. Avant, le Yetzara dans le monde était moins fort. Comme le Yetzara était moins fort, c'était pas une période de grand froid, avec une petite batterie, on démarrait. Maintenant, on est dans une période de très grand froid, donc il nous faut un gros starter. Tu démarres pas sinon. Tu cales, complètement, ça marche pas. Alors comment tu fais pour démarrer?
Alors donc.
Il nous faut une grosse batterie. Cette grosse batterie, c'est la Hassidout.
Plus le monde va évoluer,
oui,
plus il sera.
Plus il nous faut des.
Le starter plus fort encore.
Plus fort, bien sûr!
Et on va faire, on va.
T'as compris Serge, la batterie.
On va.
Vous avez remarqué, est-ce que vous avez remarqué dans la rue, il y a beaucoup, je sais pas si vous remarquez, beaucoup de dépanneurs. Les dépanneurs sont là, ils se font un grand kiff, ils viennent, ils font un coup de batterie, tu vois qu'ils démarrent. parce que c'est un grand froid. Dès qu'il y a le froid qui arrive, le problème arrive. De la même façon, t'as un grand froid qui arrive dans le monde. Si t'envoies pas du starter, les gens ils calent. Ça marche pas. Les méthodes de l'époque ne marchent plus aujourd'hui. Ça marche
alors,
pas.
Alors Dieu il a créé l'homme et il nous a mis des outils qui nous permettent pas de le comprendre, de le connaître, de le découvrir.
Si, il nous a donné des outils.
Bah, mais voilà.
Monsieur Benita, je pourrais vous dire la même chose en médecine. Dieu il a créé l'être humain et il a créé des outils pour gérer l'être humain, la médecine de l'être humain, la santé de l'être humain. Mais pour appréhender la santé de l'être humain, il faut faire appel à des professionnels qui ont eu et d'où les professionnels connaissent. Ils sont pas autodidactes. Ils ont eu une transmission. Quelqu'un qui a appris, il y a une transmission. On n'apprend pas tout seul.
Oui, mais
c'est la même chose. Tu vas apprendre la Kabbalah, il faut de la transmission. Tu peux pas étudier la Kabbalah brute comme ça. Tu passes à côté de la plaque quand tu fais ça. Et ça, c'est très important, ça. Pour ça que je vous dis encore une fois, dans la Chassidout, dans le monde de la Chassidout, on étudie pratiquement pas le Zohar, sauf pour chercher des références. Moi, je vous parle, je joue pas le Zohar. Sauf quand je cherche une référence. Il cite le Zohar, tu vas ouvrir le Zohar pour voir la référence qu'on t'a citée dans le Zohar. Mais prendre le Zohar, le lire comme ça, bon, le lire, tu peux lire, ça te coûte rien. Lire comme du télé, tu peux. Mais lire et comprendre, c'est dangereux. C'est pas dangereux parce que qu'est-ce qui va se passer déjà? C'est dangereux, il faut des prérequis. Tu risques de passer à côté de la plaque. Tu risques d'avoir des images qui sont erronées, qui sont fausses. Et c'est très grave d'avoir des fausses images. Parce que ça peut pousser l'homme à péter les plombs, à faire des erreurs grossières. D'aller à l'encontre de l'Alaha. Oui, Michel, allez-y.
Tu disais tout à l'heure que Dieu, il a des myriades de distances.
Oui, oui.
Et en même temps, il est tellement proche de nous.
Oui.
Déjà, il y a des milliards de kilomètres qui nous
suivent. Oui.
Et à l'autre côté, on te demande de prier un petit mot. Bon. Donc, déjà, il est très très loin.
Oui, mais là, encore, Michel, vous tombez dans le même piège qu'on a dit ici. Quand on vous dit un mot que Dieu est très très loin, ça ne veut pas dire qu'il est très très loin de moi. Dieu, il est là. Il n'est pas loin, il est ici. Non, mais attendez. Michel, là, exactement. On a un exemple concret là. Quand je dis qu'il est loin, ça ne veut pas dire qu'il est loin dans la distance, parce que moi, dans l'être humain, pas du tout. Dieu, il me connaît plus que moi, je me connais. Il est plus dans moi que moi je pense être dans moi. C'est certain, parce que c'est lui. Seulement, pourquoi je parle de notion de proximité d'Akadosh Baruch Hu, de proximité ou justement d'être loin d'Akadosh Baruch Hu, de distance d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce que c'est encore une fois, c'est un abus de langage. C'est un terme physique que j'utilise pour dire je trouve que Dieu est loin de moi. Mais Dieu n'est pas loin de toi. C'est un concept que j'ai expliqué que de la même façon que quand j'arrive pas à attraper quelque chose, je dis il est loin. De la même façon, comme je n'arrive pas à attraper Dieu, parce que ça me dépasse, je dis il est loin. Mais il n'est pas loin. Il est là. Le fait de dire Dieu est loin, ça ne veut pas dire qu'il est loin. Il n'est pas loin. Il est là, Dieu. Mais moi, je dis il est loin, c'est un abus de langage pour dire je n'arrive pas à l'attraper. Et dans toutes les notions de la Kabbalah, c'est comme ça. Faut faire très attention. Les gens entendent Dieu, il est loin. Dieu, il est redescendu sur la terre. Tu crois que Dieu était loin? C'est comme ça qu'on le définit. Il était loin. Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin, Dieu. Il n'est jamais loin. Toi, tu le sens qu'il est loin. Donc, comme tu le sens qu'il est loin, tu dis ah, je n'arrive pas à l'attraper. C'est ton approche, c'est ta façon d'analyser les choses.
La responsabilité, c'est comme s'il y a un président, il dit maintenant, moi là, je vais taper chez les portes, je vais aller voir les gens.
Après, oui.
Si tu traverses, tu
trouves,
c'est déjà été fait. Alors qu'avant, le président ne pouvait pas aller le voir.
Oui.
Aujourd'hui, il s'approche des gens. Bon.
Alors
pardon. On va pas comparer un roi, enfin, puissant avec un président. Mais ceci dit, pour aller plus proche des gens,
mais encore une fois, c'est là l'erreur que veut enlever l'Admor HaZaken. Dieu ne va pas plus proche de nous. Parce qu'il est déjà en nous. Attendez, écoutez ma réponse, s'il vous plaît.
On dit qu'il est dans les
Michel. Oui, mais Dieu ne s'approche pas de nous.
C'est nous que nous.
Dieu, il se rend accessible à nous. Ça veut dire qu'il a toujours été là, mais tu ne le voyais pas. Et là, il enlève le masque pour que tu vois ce qui était toujours là. Mais il est toujours là. Seulement, il n'empêche que nous, on utilise des termes de proximité. On dit Dieu, il est loin. Il n'est pas loin, Hachem. Comment tu peux parler comme ça?
En même temps, si Dieu était une entité à part entière, ça veut dire qu'il pourrait en avoir plusieurs.
Oui.
C'est pas une entité, Dieu. Si c'est une entité, c'est un. On dit Hachem et Rabbi, c'est plus la notion que nous on a.
Cette idée, c'est l'idée que, à mon avis, la semaine de Rambam. Rambam a dit cette idée-là, un être humain ne peut pas comprendre à
100%. C'est ça.
C'est impossible parce que comment tu peux comprendre que c'est une seule.
C'est qu'il va y avoir deux, trois.
Oui, voilà. C'est paradoxal. Parce que d'un côté tu me dis qu'il n'est pas composé, d'un autre côté on voit que il donne des ordres à certaines personnes, donc qui doivent écouter ou pas écouter. Donc
c'est ça.
Il y a une notion de relation de cause à effet. Ça, Maïmonides dit, on peut essayer de comprendre.
Mais
on ne pourra pas comprendre à 100% parce que notre cerveau n'est pas conçu comme ça.
D'un côté ou de l'autre, des renégats ou des gentils, on n'a aucune preuve que de l'un ou de l'autre. Nous, on vit chaque jour et on.
Oui, non, c'est pas, je comprends ta question.
Après,
non, c'est pas une question de preuve. Oui, je comprends ce que tu dis. Mais il faut au moins avoir l'humilité. Je ne parle pas de toi. Il faut au moins avoir l'humilité que quand tu touches à un sujet que tu ne connais pas. Admettre que tu ne connais pas.
Ça, c'est un sujet que je connais, je le vis tous les jours.
Non, écoute bien ce que je veux dire. Écoute bien ce que je veux dire. Ça veut dire avoir l'humilité de dire je n'ai pas compris, c'est bien. Moi, ça ne me dérange pas à la limite. À la limite, vous savez quoi, quelqu'un qui me dit écoute, Mandy, ça me dépasse, j'arrive pas,
on vient plus.
Laisse tomber, je préfère pas. Voilà.
Bon, c'est bien. C'est
non, mais c'est ce qu'on dirait. C'est une approche. C'est une approche qui tient la route. Mais venir me dire, Mandy, c'est de la dope. Venir me dire, Mandy, j'ai compris que Dieu est parti. J'ai dit, attends, t'as rien compris, papa. C'est pas ce qu'on a dit.
Ça, c'est un jugement.
C'est clair que.
Parce que tu ne parles pas de ce que tu connais.
C'est parti. Nous, au prochain, on est là, on a mon accueil, il est là, avec l'institut comme Michael, on a un niveau élevé. On sait qu'il est là, mais. Pose la question à quelqu'un qui débarque un cours demain.
Ah, ça, on lui a déjà
répondu.
Ça, on lui a déjà répondu au chapitre 2 de Chèvre de Mouna.
Je ne vais pas gagner d'argent. Mais
bien sûr, attends. Ça, on lui a déjà. Ta question, on lui a déjà répondu au Chèvre de Mouna. Une personne qui réfléchit. D'accord. Qui réfléchit. Intellectuellement, il est obligé d'arriver à la conclusion que Dieu gère le monde. Le monde ne peut pas gérer tout seul.
Intellectuellement.
Reproche à Chèvre de Mouna.
D'accord.
Regarde.
Ça sera quand même un Dieu.
Combien de fois dans ta vie. Regarde. Si tu veux, relis encore une fois Chèvre de Mouna, chapitre 2, chapitre 3, tu verras qu'il répond à la question. Intellectuellement. Pas Zohar, Kabbalah. Intellectuellement, il répond à la question. Quand tu réfléchis à la façon dont le monde tourne, tu arrives à une conclusion physique, une conclusion intellectuelle que Dieu gère le monde. À chaque seconde. Oui. Mais plein d'exemples à lui donner. Dieu gère le monde. C'est sûr, ça. Il n'y a pas de question. Après, effectivement, il y a des gens qui vont dire je n'arrive pas à comprendre, ou il y a des gens qui vont appliquer des termes physiques. Ça commence à devenir problématique. Faire attention à ça. Faire attention. Et vous savez comment on sent en vérité, quand on parle de Dieu, il faut sentir chez nous une certaine humilité. Il faut qu'on sente que tu parles de quelque chose que tu ne touches pas vraiment. Si quelqu'un il parle de Dieu et que tu as l'impression qu'il cartographie comme il a tout compris, il y a un problème. C'est qu'il n'a pas compris de quoi il parle. Il faut comprendre de quoi on parle ici. Il faut comprendre qu'on parle de choses qui nous dépassent. Qu'on essaye de comprendre, mais que ça nous dépasse.
Donc il n'y a rien à comprendre.
Non, ça c'est une erreur. Non, ça c'est une erreur ça. Non.
Ben oui, puisqu'on me dit ça te dépasse, tu ne peux pas comprendre. C'est au-delà de l'intellect.
Non, pas du tout. C'est comme si une personne il va dire, comme il y a des formules mathématiques qui me dépassent, donc les mathématiques me dépassent, je ne touche pas les mathématiques, laisse tomber. Quel rapport ? Qui t'a dit ça ? Toi tu vas jusqu'où tu peux arriver, et à un moment ça te va te dépasser. Au moment où ça va dépasser, ça s'arrête. Toi, tu vas t'arrêter là, toi, tu vas s'arrêter là, toi, tu vas s'arrêter là, et tu vas jusqu'au maximum de tes capacités. Dans tous les domaines de la vie, peu importe la science que vous prenez, et avec ça, c'est une science qui est limitée, il y a forcément un domaine dans lequel tu dis là, je cale, là, j'arrive pas. C'est pas grave, c'est très bien. Ça veut pas dire que le temps que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était perdu. C'était pas perdu, c'est bien ce que tu avais. Mais il faut admettre ses limites.
Comme on est enfant, on a des notions de l'infini. Mais c'est pas possible l'infini. Qu'est-ce qu'il y a après les jours ? Et quand on grandit, on se dit pas.
Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va continuer Bezrat Hashem la semaine prochaine. On terminera. Ouais, je sais pas si on terminera. Enfin, chapitre 7, parce qu'il y a un truc qui est encore long. Voilà, ça nous donne une façon de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on dit que Kadosh Baruch Hu a eu le tzitzit. Voilà, c'est un plat.